Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
La nouvelle est tombée, la Cour suprême qui refuse d'entendre la demande des courageuses d'intenter une action collective contre Gilbert Rozon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Évidemment, c'est une des grosses nouvelles de la journée. Écoutez, je trouve que c'est important de parler de ce dossier-là parce que sûrement que aujourd'hui beaucoup de gens vont regarder cette décision là et dire "Oh, on le sait bien, les femmes sont pas crues. Oh, on le sait bien, c'est bien la preuve que des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles n'ont pas le droit à une justice, une sentence pleine et entière. Le mouvement féministe va être grimpé dans les rideaux en disant c'est effrayant ce qui se passe." Il faut quand même rappeler qu'à la base, c'est une décision basé sur des points de droit. Pourquoi? Parce que les gestes qui ont été reprochés, les gestes allégués, ça a eu lieu à différents moments sur une période d'au moins 34 ans envers différentes personnes. C'est en tout cas ce qu'indiquait la décision au début de la première cour qui s'est prononcée là-dessus. Et c'est là-dessus, c'est parce que tu peux pas avoir une cause d'action collective qui regroupe des gens qui ont vécu des événements aussi différents. C'est là-dessus que se base la décision de la Cour suprême. Donc, c'est un très mauvais exemple à choisir pour apprendre, pour dire, bon, ben les femmes n'ont pas le droit à la justice dans les causes d'agression sexuelle. C'est un cas où vraiment, pour avoir une action collective, il faut qu'on puisse prouver que tout le monde a été lésé ou atteint ou victime de la même façon, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Alors, quand je vois les cris des féministes qui disent « Ah, on voit bien, il n'y a pas de justice pour les femmes », je pousse un grand. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Parce qu'il y a la COVID, il y a aussi des COVIDios. C'est comme ça qu'on appelle les tatas, les taouins, les crapets soleil, les nonos, les pas de tête, les pas de jugement, qui continue à se comporter comme s'il n'y avait pas de pandémie, comme s'il n'y avait pas de virus virulent. Et ça, ce genre de comportement-là, ça met mon prochain invité complètement hors de lui. C'est Jean-Michel Dufault, chroniqueur, animateur, auteur, qui est avec nous tous les lundis. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Sophie, bon lundi.
Écoute, toi qui es Monsieur Café, qui a fait, tu sais, des livres, vraiment ta passion pour les cafés, des fois, ces jours-ci, quand tu vas dans des petits cafés, il y a des gens qui se comportent comme des taouins. Explication, s'il te plaît.
Ben, ce week-end, il fallait que j'aille dans le Vieux Montréal pour un autre truc, et puis je suis arrêté au un café que j'aime bien, l'Olympico. On sait qu'il y en a un, l'original, dans le Mile End, mais il y en a un dans le Vieux-Montréal, en bas de l'hôtel William Grey, où on peut prendre, pour emporter un café, un bon café. J'aime ce café italien. Mais je regardais les gens derrière moi. Il y avait trois personnes, ne respectaient pas les consignes. La personne portait mal son masque aussi. Ça, c'est spectaculaire. Les gens qui ne comprennent pas que c'est important de mettre le masque par-dessus le nez.
Le nez?
On sait ça, il faut le mettre par-dessus le nez et la bouche, mais je veux dire, il faut aussi le mettre par-dessus le nez. Il ne faut pas juste le mettre par-dessus la bouche, le fameux masque, là, quand on commande, quand on est en ligne. Et quand cette personne-là est arrivée au comptoir, ben il a baissé son masque à 30 cm du visage du barista. Moi, ça me met honnêtement hors de moi, comme tu dis, je ne comprends pas qu'encore on ait à avoir cette discussion. Et ça me fait penser que, tu sais, les citoyens, on est toujours en train de chialer contre nos gouvernements. C'est toujours la faute des gouvernements. C'est toujours la faute d'en haut. C'est toujours la faute des gouvernements. Cette fois-ci, c'est à nous de bien jouer. C'est aux citoyens de bien jouer. Et on n'est même pas capable de faire ça. Et si on l'échappe beaucoup depuis le début, si les chiffres ne baissent pas tant que ça, c'est de notre faute. C'est beaucoup de notre faute. Parce qu'il y a trop de gens qui encore ne prennent pas ça au sérieux, alors qu'on sait que, comme je dis, la communauté scientifique s'entend. Si on porte bien le masque, si on respecte la distanciation sociale, les chiffres vont baisser. Mais si on porte pas le masque, si on porte mal le masque, si on fait, je n'en revenais pas. Puis là, je suis resté calme, mais j'avais vraiment le goût. Puis moi, ma patience est à bout, comme on dit.
Oui, pas mal tout le monde.
D'enguirlander la petite, de vraiment. Et je suis resté calme, j'ai dit, fais pas une scène, sors. Mais ça me fascine. Ça me fascine qu'on soit encore là. Et je peux comprendre les gens. Et c'est deux débats. Je peux comprendre les gens de dire, ben, c'est donc bizarre cette affaire-là. Est-ce que c'est vraiment, ça a vraiment débuté d'un pangolin? Comment ça se fait que la Chine, au début, a peut-être pas tout dit? Il y a des questions peut-être après qu'il va falloir se poser. Je suis bien d'accord. Mais pour l'instant, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer d'être discipliné. Sinon, on n'en sortira pas.
Mais tu sais, Jean-Michel, mais je pense qu'on a tous, mais bien sûr, tous une responsabilité, évidemment, individuelle. Et en même temps, je pense qu'on a aussi une responsabilité de faire un petit peu, puis là, je me ferai pas d'amis ce matin, de faire un petit peu la police. C'est-à-dire que moi, quand je vois des gens qui se promènent dans les allées à la pharmacie ou dans un commerce, peu importe, et qui portent leur masque tout croche, je leur dis gentiment, évidemment, mais je leur dis, monsieur, madame, vous savez, le masque, c'est super important de le mettre sur le nez, sinon, c'est comme si vous portiez pas de masque. Quand quelqu'un respecte pas le 2 mètres, ben, c'est important de le mentionner gentiment. Écoute, je te donne un exemple, je donne aux gens qui nous écoutent un exemple. Il y a 2-3 semaines, je suis dans un commerce, un truc de crème glacée de chocolat. C'était une des journées où il faisait beau, en tout cas, peu importe. Et il y avait tellement de gens qui faisaient la file qu'on a été obligé de faire la file à l'intérieur. Donc, il y a une dame qui rentre, qui a pas de masque, qui se dit « Ah, c'est pas grave », avec comme un pull, un chandail, là, un col roulé. Elle prend son col roulé, puis elle déroule le bord, puis elle se le met sur la face. Alors, il y a la serveuse qui lui dit « Madame, vous devez porter un masque ». Fait que l'autre, elle dit « Ah, ben là, c'est pas grave, c'est juste une fois ». Fait que là, la serveuse, elle dit « Ok, pour aujourd'hui, c'est correct ». Fait que là, je dis à la serveuse « Ben voyons donc, comment ça, pour aujourd'hui, c'est correct ». Cette dame-là est en train de mettre potentiellement en danger toutes les autres personnes qui sont autour.
Absolument.
Fait que là, j'ai fait ce que je fais tout le temps parce que je suis ma tante achalante. J'ai dit, est-ce que je peux voir le gérant? Non, mais je demande à voir le gérant. Et le gérant est arrivé. Le gérant est arrivé, puis j'ai dit, écoutez, il y a une dame qui fait la file, qui a pas de masque. Votre collègue pense que c'est correct parce que c'est juste une fois. Moi, je suis pas d'accord. Ben, le gérant a dit, c'est vous qui avez raison, madame. Fait qu'ils l'ont fait sortir, la cliente. Il faut... Je veux pas être la Gestapo de la pandémie, mais il faut faire respecter ces règlements-là parce que on est tous, cette dame-là, elle a peut-être contaminé d'autres gens. Fait qu'il faut se tenir debout. Ouais.
Non, mais t'as raison que c'est drôle. C'est vraiment, des fois, je le dis. Hier, il y avait seulement un gars dans l'endroit est tout petit d'ailleurs, c'est tout petit. Donc, je me disais, ben, si le barista qui est là avec son masque en même temps, il a bien fait les choses parce que même à un moment donné, je l'ai vu dire à des gens, attendez, retournez dehors parce que là, on est plus que 5 à l'intérieur en file. Mm-hmm. Donc, je voyais qu'il était quand même autre chose. Mais c'est vrai que tu as raison. Des fois, on dirait que je vais le faire. Puis d'autres fois, je sens une énergie de quelqu'un. Je sens que ces gens-là attendent juste ça pour être encore pire, pour avoir une chicane. Pour, tu sais, ces gens qui cherchent juste une occasion d'être en chicane. Puis on dirait que dans l'énergie, mais tu as raison. Je pense qu'en général, il faudrait le dire. Il faut le faire gentiment puis poliment. Puis t'as raison de le dire, je pense, au gérant de la place, comme ça. Mais hier, c'était comme... Puis là, quand j'ai vu à la fin qu'il baissait son masque pour se pencher par-dessus ton doigt, je sortais, mais j'ai dit, OK, je m'en mêle plus. Mais sinon, je pense que j'aurais été quasiment trop agressif dans ma façon. ça m'énervait tellement que j'ai fait, OK, je m'en vais. Au lieu de d'engueuler le gars, parce que je pense que j'aurais eu de la misère à être diplomate et poli. Mais ça me fascine encore qu'encore ce week-end, on a ces discussions-là. Je suis comme, ben là, attendez, là, on n'en sortira pas.
Ouais, puis écoute, c'est vraiment drôle qu'on se parle de ça. Aujourd'hui, en fin de semaine, je vais dans un magasin de magazines et il y a un gars qui rentre pas de masque. Puis à un moment donné, fait que je parlais avec le vendeur, parce qu'évidemment, il lui a demandé de sortir. Puis je disais au vendeur, il y a encore des gens, ça est depuis le vendredi 13 mars, qu'on est dans la chenoute par-dessus la tête. Il y a quelqu'un encore qui sait pas qu'il faut que tu portes un masque à l'intérieur. C'est hallucinant. Écoute, il y a un autre sujet dont tu voulais absolument nous parler aujourd'hui. Puis comme je le dis souvent, moi, je suis vraiment pas Madame Sport, mais dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Kim Ng-gu, première femme directrice générale dans le baseball majeur. Ça, c'est majeur.
Oui, exactement, comme tu dis, c'est marrant. C'est une énorme nouvelle, là. Pensez que quand même le baseball professionnel dans l'Amérique du Nord, c'est l'un des sports majeurs très, très, très importants. Et pour la première fois de l'histoire, on nomme une femme directrice générale d'une équipe. C'est quelque chose de formidable. Et sérieusement, là, je trouve ça formidable. Et pourquoi pas? Et moi, j'aime bien parce que même dans le sport, je trouve qu'en général, trop souvent, il y a des gens qui sont de la vieille école qui vont dire « quelqu'un ne peut pas être à la tête d'une équipe si cette personne-là n'a pas joué au niveau ». Ce qui est complètement faux parce que les gens qui connaissent le sport voient qu'il y a des équipes championnes qui ont été construites par des gens qui n'étaient pas de grands athlètes. Mais le fait justement qu'ils n'étaient pas de grands athlètes faisait qu'ils étaient forcés à faire leur devoir, à analyser. Ils avaient un regard différent. Alors que souvent, les grands athlètes, ils ont tout naturel, mais ils peuvent pas vraiment l'expliquer parce que c'est un don naturel. Ils ont cet athlète en eux, mais ça veut pas dire qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Et donc, cette femme, c'est formidable. Elle est en plus d'origine asiatique, donc elle fait un doublé. Et c'est la première personne de
l'origine asiatique. Oui, c'est vrai.
À être directrice générale, donc, d'un club de baseball. Elle est née à Indianapolis. Elle a grandi à New York. Elle vient quand même d'un milieu assez aisé, on doit dire. Deux parents, donc, d'origine taïwan-chinoise. Son père était analyste financier. Sa mère travaillait dans une banque. Elle a grandi dans les banlieues de Queens et de Long Island de New York. Elle a étudié à l'Université de Chicago. Et dès le début des années 90, elle a commencé à travailler pour le baseball, pour le club de Chicago. Elle a été assistante gérante. Elle a travaillé pour le baseball majeur. Mais formidable parcours. Et vraiment, je reviens toujours à ça. Il y a quelqu'un dans le baseball qui s'appelle Theo Epstein, qui, à la fin de sa vingtaine, a cassé la guigne des Red Sox de Boston, qui n'avait pas gagné la série mondiale depuis 100 ans. Et ce gars-là, c'est un genre de jeune intellectuel juif qui n'a jamais joué au baseball au niveau, mais qui était brillant. Et donc, pourquoi pas une femme brillante, de la mettre dans une position comme ça. Et je veux dire aussi que cette année, il y a deux femmes aussi, parce qu'il y a une femme aussi en Suisse qui est directrice générale dans la Ligue nationale suisse, qui s'appelle Florence Schelling. Oui, Florence Schelling, qui, elle, était gardienne de but, donc qui, elle jouait au niveau au hockey féminin. Elle a représenté l'équipe olympique. Elle avait étudié à Northeastern, d'ailleurs, à Boston. Elle représentait son club dans la NCAA. Et elle aussi, au mois d'avril dernier, elle s'est peut-être passée un peu plus inaperçue, parce qu'évidemment, on était au cœur de la pandémie, mais elle, première femme dans le monde à être nommée directrice générale d'un club de hockey et d'un grand club aussi, il faut le dire, parce que Berne est un des clubs importants en Suisse, c'est la capitale, c'est une des grosses équipes avec des foules de plus de 15 000 spectateurs par match. Donc, il commence à avoir, et moi pour ça, vraiment, je suis totalement pas, et sans être flagorneur envers la femme, je me disais, on va boucler avec la pandémie, mais on sait que la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et Taïwan ont mieux géré sa pandémie que d'autres pays du monde. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun ces contrées-là? Eh bien, elles sont toutes dirigées par des femmes. Et donc, je me dis, bon, ben si les femmes ont prouvé au niveau de la pandémie qu'elles pouvaient mieux gérer que les hommes, et ça, il y a beaucoup d'articles, vous irez voir ça, comme quoi ces pays, c'est des femmes qui ont pris les bonnes décisions, qu'elles ont mieux géré que les pays un peu machos dirigés par les hommes. Ben, je me dis, ben, pourquoi pas qu'elle serait pas capable de construire des clubs champions. Donc, en tout cas, je trouve que c'est des nouvelles rafraîchissantes et c'est des nouvelles le fun. Et je trouve que moi, tout le monde a gagné. S'il y a des femmes qui ont la passion du sport et des jeunes filles qui se disent, hey, moi, un jour, j'aimerais ça diriger un club, être directeur général d'un club de sport, ben, pourquoi pas? Il commence à avoir des femmes qui brisent le fameux plafond de verre dans le sport également.
Ben écoute, c'est une bonne année pour les femmes parce que quand même, donc tu nous donnes cet exemple-là dans le sport, Kamala Harris, vice-présidente aux États-Unis, ben enfin future vice-présidente, hein, ça va se passer seulement en janvier. En plus, noire par son père qui est jamaïcain, sa mère est indienne, donc il y a beaucoup de plafonds de verre quand même en ce moment. Cette année, peut-être une année de schnoute à toutes sortes de niveaux, mais à certains niveaux, c'est quand même intéressant, différents plafonds de verre là, qui sont fracassés. Je veux juste revenir sur Mme Enge. C'est intéressant aussi parce que, ben, tu sais, on se rappelle, tu sais, le film A League of Their Own, là, sur une équipe de baseball féminin, tu sais, ça va peut-être aussi donner, peut-être par contre-coup, donner le goût à plus de filles de s'intéresser à ce sport-là.
Absolument. Et puis, il y a beaucoup de filles quand même qui... C'est incroyable quand même le nombre de filles qui jouent au hockey, qui jouent au baseball, qui ont des ligues de balle, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours eu un intérêt même à regarder au soccer, comment le niveau féminin de soccer est impressionnant. On se rappelle même la victoire de l'équipe américaine à la Coupe du Monde féminine. Et donc, je trouve que il faut absolument briser les barrières, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et c'est là que tu vois quand même que c'est encore une société sexiste, il y a encore des progrès à faire, mais c'est des petites batailles, c'est des petites batailles, et moi qui est un grand fan de sport, sérieusement, je trouve ça super, je trouve ça formidable, et ça va aussi prouver que peu importe le sexe, on peut faire quelque chose de bien au niveau de la direction, et aussi ça renforce mon analyse qui est toujours, c'est pas vrai que c'est toujours les anciens grands athlètes qui font des grands dirigeants. Souvent, Wayne Gretzky a été entraîneur, ça a été une catastrophe. Maurice Richard a été entraîneur de la première équipe des Nordiques dans la MH et ça a été une catastrophe. Donc, des fois, ça n'a pas rapport. Et t'as des gens donc qui viennent d'autres milieux, une approche plus intellectuelle avec le pas en arrière, une vision plus globale, repenser les choses. Et je pense que les femmes peuvent avoir une vision originale, différente. Et en tout cas, c'est surveillé, mais vraiment, Florence Schelling avec l'équipe de hockey en Suisse et aussi Kim avec les Marlins de la Floride, quand même, qui est une grosse concession de baseball. Donc, je trouve que c'est important de le souligner, là, que c'est une belle nouvelle cette semaine.
Absolument. Puis écoute, on parlait du film A League of Their Own, là, avec Tom Hanks tout à l'heure. Et Sébastien Laperrière, qui est mon collègue à la mise en onde, à la réalisation, a retrouvé l'extrait. Alors, on va se faire plaisir parce que c'est quand même une scène mémorable. Écoute, même moi qui connais pas grand-chose en sport, je me souviens de cette scène-là. On écoute ça.
Are you crying? There's no crying. There's no crying in baseball.
Why don't you leave her alone, Jimmy?
Oh, you zip it, Doris. Rogers Hornsby was my manager, and he called me a talking pile of pig shit. And that was when my parents drove all the way down from Michigan to see me play the game. And did I cry?
No,
no. No, no. And you know why?
No.
Because there's no crying in baseball. There's no crying in baseball.
Donc, il y a une fille qui, il vient de faire le commentaire, c'est comme le gérant ou le directeur de l'équipe, bref, et il vient de lui faire un commentaire, la fille, elle part à pleurer, puis il lui dit, hey, moi là, je me suis fait crier après toute ma carrière au baseball, est-ce que j'ai pleuré? Non, pourquoi? There's no crying in baseball. Alors, je sais pas si Kim Ng, elle va faire la même chose quand elle va parler à son monde, mais c'est assez rigolo. Écoute, très rapidement, t'as une minute, Jean-Michel, je sais à quel point le français est important pour toi. T'as sûrement pris connaissance du reportage de nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Se faire servir en anglais uniquement dans la moitié des commerces visités au centre-ville de Montréal, t'en penses quoi?
Ben, moi, je suis de ta génération. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est inacceptable. Et ça n'a pas rapport. On peut être fédéraliste, on peut être indépendant. Ça n'a pas rapport. On est dans un endroit francophone. C'est ma ville, c'est ma langue, c'est ma culture. La moindre des choses, c'est de me faire parler en français. Et moi, je suis vraiment là-dessus. Je me gêne pas et je vais le dire. Et contrairement à parfois où j'ai des situations avec le masque par rapport au français, je vais le dire. Je vais dire non, attendez là. Je vais me faire servir en français et je trouve ça inacceptable. Et je trouve, c'est vrai, je trouve qu'il y a un relâchement. C'est un drôle de truc aussi, le centre-ville présentement aussi, il faut le dire, là. Avec la construction.
Oui, mais ça date pas d'hier, là. Ça date pas d'hier.
Ça date pas d'hier. Exactement. Ça date pas d'hier et c'est un combat qu'on doit toujours rappeler parce que c'est un combat qui n'est pas gagné. Et c'est la moindre des choses. Et comme je dis, ça n'a pas rapport à l'arrêter avec d'autres trucs de ci ou de ça, mais on doit se faire servir en français dans la ville francophone d'Amérique. T'sais, pour moi, c'est un non-sens que ce soit pas le cas. Et que ce soit même discuté, que ce soit même contesté, pour moi, c'est inacceptable. Là-dessus, non. C'est notre langue. Il faut la protéger. Il faut des lois coercitives pour la protéger. Et il faut un minimum de respect envers le français dans cette ville francophone d'Amérique et du monde.
Ben, je ne peux qu'applaudir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, écoute, c'est important aussi parce que toi, t'es quelqu'un qui a vraiment voyagé partout à travers le monde. Et, je veux dire, il nous viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'arriver à Madrid et d'être accueilli par un hola hi, même s'il y a beaucoup, beaucoup de touristes en Espagne. Puis, tu sais, mettons, t'arrives à Paris, là.
Exactement.
T'es accueilli dans c'est une ville, une des villes où il y a le plus de tourisme au monde. Mais ils accueillent pas les gens en disant bonjour, hi. Ils disent bonjour. Pourquoi? Parce qu'on est en France puis les gens parlent français.
Exactement. Puis c'est drôle, rapidement. Là,
rapidement?
Une fois, j'étais en Allemagne à Düsseldorf. Puis je sais pas parler allemand, mais j'avais appris la phrase. Je m'excuse, je ne sais pas parler allemand. Pour expliquer que je voulais un café. Et donc, j'ai commencé à prendre anglais. Et la barista avait trouvé ça tellement gentil que je dis cette phrase en allemand. Elle dit, les Américains ne font jamais ça. Alors, elle m'avait donné le café.
Oh, ben tu vois comme quoi.
Voilà.
Tu vois comme quoi c'est payant. Exactement. Voilà. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. On se retrouve lundi prochain.
Avec plaisir. Bonne journée, bon lundi.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous savez que mon collègue Antoine Robitaille, par dérision, par auto-dérision, s'appelle lui-même Mononcle 101 parce qu'il est très pointilleux sur le français. Et j'ai pris l'habitude, moi aussi, de par auto-dérision, de m'appeler ma tante 101. Alors, ma tante 101 a été bien découragée ce matin en lisant le Journal de Montréal, le Journal de Québec, les résultats du sondage léger diffusé donc dans nos pages, où on apprend que pour les jeunes, en tout cas les 18-34 ans, la prépondérance de l'anglais, c'est pas si inquiétant que ça. Puis se faire accueillir en anglais dans les commerces, c'est pas si grave que ça. On va en parler avec Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Jean-Marc, bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-Marc, je sais pas, est-ce que vous êtes vous aussi un Mononcle 101? Est-ce que ça vous a fait de la peine dans votre cœur de sondeur de voir les résultats du sondage?
Ben, il faut relativiser, parce que c'est sûr que chez les jeunes, la langue française est moins importante. Mais quand on regarde les jeunes francophones uniquement, si j'exclus les jeunes allophones et anglophones, le taux est moins élevé. Là. C'est, fait qu'on va tout mettre ça dans son contexte. C'est 26 % des jeunes qui disent que la difficulté de se faire, l'importance de se faire servir en français. Mais c'est quand même deux fois plus élevé que les gens plus âgés. La dynamique est pas bonne. De génération en génération, les gens accordent moins d'importance au fait français. C'est comme si on accepte que l'anglais s'immisce partout.
Voilà. Et quand on regarde les chiffres, en effet, qu'on voit que de génération en génération, ça diminue. D'ailleurs, ça me fait penser à la toune « des générations ». Mais bon, donc de génération en génération, ça diminue. Ça veut dire que si, par exemple, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on fait un autre sondage avec les 18-34 ans, les futurs 18-34 ans, il y a des chances que ça s'effrite encore plus. C'est peut-être là qu'on devrait s'inquiéter, non?
Oui, parce qu'ils n'ont pas fait les luttes de la langue française comme la génération plus âgée. D'ailleurs, les 55 ans et plus, c'est eux qui sont les plus attachés à la langue française. Mais pour un jeune aujourd'hui, qui est beaucoup plus bilingue, beaucoup plus scolarisé, beaucoup plus, il a joué à des jeux vidéo toute sa vie, il écoute Netflix, il va sur des sites internet francophones. L'anglais est partout. On est 7 millions de francophones entourés de 360 millions d'anglophones au Canada anglais et aux États-Unis. L'intrusion est partout, mais les jeunes, étant donné qu'ils sont plus bilingues, acceptent ça davantage que les gens un peu plus âgés.
Oui, mais en même temps, ce côté bilingue-là, il pourrait théoriquement toucher aussi les personnes plus âgées, parce que Netflix, il n'y a pas juste les 18-34 ans qui sont là-dessus. Je veux dire, c'est peut-être aussi une question de je dirais d'air du temps. C'est que dans l'air du temps, on nous dit c'est important la mondialisation, il y a plus de frontières, tu sais, on va tous dans les mêmes Starbucks, dans les mêmes McDo, dans les mêmes. Donc il y a un côté l'anglais, c'est pas juste la langue qui est parlée en Ontario, l'anglais c'est la langue universelle pour communiquer. Puis ça, on se le fait dire beaucoup, beaucoup, puis la génération des 18-34 ans se le fait beaucoup dire. Donc, leur perception de l'anglais est pas la même que quelqu'un qui est né en 1965 et certainement pas que quelqu'un qui est né en 1950, là.
Non, exactement. Puis le fait que le Québec est plus ouvert sur le monde, ça nous ouvre à tout ça, parce que l'anglais est un problème partout, pour toute la communauté espagnole, la communauté russe, la communauté asiatique. L'anglais s'immisce partout. Mais au Québec, on a un deuxième facteur, c'est que nous, étant donné qu'on est minoritaire sur le continent, on doit doublement se protéger. Et ce qui est plus inquiétant, c'est de voir que pour les jeunes, c'est moins important. D'ailleurs, on demande aux gens, est-ce que quand vous allez au centre-ville de Montréal, est-ce que vous êtes abordé en anglais? Vous avez quand même 30 % des francophones qui disent qu'ils sont d'abord abordés en anglais. Puis ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus important. Mais le pire, c'est qu'on l'accepte. Donc, c'est comme ça devient inévitable, alors que ceux qui se sont battus pour la loi 63 à l'époque, la loi 22,
oui.
la loi 21, la loi 101 qui est la suivante, qui était la loi 101 qui était la loi qui était votée dans les années 70 par le gouvernement d'Évêque, tout ça, eux autres, ils avaient cette même bataille-là, mais c'était une bataille davantage contre les Anglais de Montréal. Aujourd'hui, c'est une bataille contre l'anglais universel.
Mais tout à fait, c'est tout à fait le parallèle qu'il faut faire et je pense qu'il est important. Il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, puis celui-là, il est peut-être plus difficile à expliquer, c'est quand on analyse les données du sondage, Jean-Marc, selon la scolarité. Alors, peut-être d'abord nous donner les résultats, puis après, essayer de les comprendre.
Oui, parce que ce sont les gens les moins scolarisés qui trouvent que le fait français est plus important. Et plus on est scolarisé, moins on trouve ça important. Et ça, c'est vraiment lié au fait que plus on est scolarisé, plus on est bilingue. Il y a vraiment une cause de fait, quand on est que francophone, forcément, ça nous préoccupe davantage que quand on s'immisce dans la communauté puis qu'on est davantage bilingue. Vous savez, sur le bilinguisme, là, il y a 65% des Québécois qui se disent parfaitement ou un peu bilingue. Chez les anglophones, c'est 85% qui se disent parfaitement un peu bilingue. Parce que les autres vivent une réalité différente.
Oui.
On prend pour acquis que les francophones parlent tous anglais. Non, il y a moins de francophones qui parlent anglais que d'anglophones qui parlent français. Ça, c'est
oui,
ça,
mais
c'est
justement. Oui, mais justement, s'il y a tant d'anglophones qui sont bilingues, raison de plus justement pour pas accueillir les gens en anglais au centre-ville de Montréal, parce que l'argument du tourisme, mettons, ne vaut pas en ce moment, parce que des touristes, il n'y en a pas. Bon, alors l'argument de dire, ben on va accueillir les gens en anglais parce qu'il y a beaucoup d'anglophones, on entend ça à Westmount, on entend ça dans les quartiers anglais, on accueille en anglais parce que notre clientèle est anglophone. Oui, mais 85% de ta clientèle qui est anglophone, elle parle très bien le français, fait que pourquoi tu l'accueilles en anglais? Ces chiffres-là devraient donner à réfléchir aussi dans la communauté anglophone, en fait.
Oui, puis c'est pas un bloc monolithique aussi, la communauté anglophone, hein, faut comprendre. Là,
bien sûr.
Ce sont pas tous des méchants anglophones qui veulent contester, mais dans la réalité quotidienne, ça devient tellement plus facile, aisé de converser en anglais, c'est qu'on rentre dans cette dynamique-là. Et les jeunes font face à cette réalité-là, ils vivent dans cette réalité-là, puis ils n'ont pas les mêmes revendications que les autres. Par contre, il y a une autre donnée dans un sondage qu'on a réalisé qui démontrait que pour les Québécois, la situation est préoccupante. Ils s'attendent à ce que le gouvernement légifère. Deux tiers des Québécois s'attendent à ce que le gouvernement légifère. Et on sait que le gouvernement de la CAQ est plus nationaliste que le gouvernement libéral précédent, va apporter des modifications à la loi 101 et donc ce débat-là sur la langue va revenir. Et là, on verra comment les jeunes vont réagir. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas de débat sur la langue. Là, on voit qu'on a touché dans ce sondage-là une corde sensible des Québécois. Et c'est vrai pour l'intégration des immigrants, c'est vrai pour le droit de parler français au travail.
Oui.
C'est vrai dans l'affichage commercial. C'est une bataille, mais c'est pas une bataille juste juridique. C'est pas une bataille de loi. C'est une bataille individuelle aussi. Chaque citoyen doit...
Une bataille de cœur.
Oui. Une bataille de cœur. Quand vous arrivez dans un commerce et on vous sert en anglais, vous avez le droit de leur dire, regardez, parlez-vous français. Et c'est aux entreprises de s'adapter. Sinon, on va aller magasiner ailleurs.
Oui, ben moi, Jean-Marc, parce que je m'appelle ma tante 101, ce que je fais deux choses. Quand je suis accueillie en anglais uniquement dans un commerce... j'exige évidemment d'être servi en français. En général, je demande à parler au gérant ou à la gérante. Et deux choses que je dis. Quand je me fais répondre « Well, I come from Toronto » puis tout ça, je réponds, j'ai dit « Well, if I go to Toronto and I can't speak a word of English, do you think I could get a job? The answer is no. So how come you come to Montreal, don't speak a word of French and you can get a job? » Ce qui traduit en français est « Ben, comment ça se fait que toi, tu viens de Toronto? Si je vais à Toronto demain matin, je parle pas un mot d'anglais, je pourrais pas en avoir de travail. Comment ça se fait que l'inverse est vrai? » Et la deuxième chose que je fais, c'est que je dis au commerçant ou au vendeur, la vendeuse, je dis, je refuse de vous donner de l'argent si vous ne vous parlez pas dans ma langue. Parce que la seule langue qu'on comprend dans le commerce, c'est la langue de l'argent. Money talks. So, look at me while I leave your business. Regardez-moi aller, là, je sors de votre commerce. Et on a ce pouvoir-là comme citoyen, et puis surtout comme tu sais, consommateur.
Ce que vous dites, là, si on multiplie ça par 1000, par 100 000, ils vont être obligés de s'adapter. Vous avez raison qu'en bout de ligne, là, c'est une question très commerciale derrière ça. Puis le commerçant, lui, qui est allophone, anglophone et qui est habitué de parler en anglais, lui, il comprend pas cette réalité-là francophone. Donc, si on ne lui expose pas, si on ne l'explique pas, il va passer à autre chose. Mais s'il perd des ventes, il va réagir.
Oui, puis je pense que c'est important aussi, Jean-Marc, puis là on sort simplement des résultats de sondage et tout ça. Je pense que c'est important aussi de ne pas être agressif. Tu sais, moi, des vendeurs, là, c'est pour ça que je demande tout le temps à parler au gérant ou à la gérante. Parce que le vendeur, une chance sur deux, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est pas au Québec depuis longtemps. Notre programme de francisation au Québec est tout croche. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'il y ait plus d'argent qui soit mis dans la francisation. Quand t'as deux enfants en bas âge, que tu viens d'arriver au pays, que ta priorité, c'est juste de mettre de l'argent sur la table pour nourrir tes enfants, c'est sûr qu'on peut pas demander à ces gens-là de parler français. Mais on peut, par contre, mettre de la pression sur les gens qui engagent des unilingues anglais. Moi, le nombre de fois où je me fais livrer de la pizza, livrer du chinois, livrer de l'indien, les livreurs parlent pas un mot de français. Mais les commerces, là, qui engagent quelqu'un et qui leur apprennent même pas à dire bonjour puis merci, ces gens-là sont responsables.
Exactement, ces gens-là sont responsables, puis ça se produit de plus en plus, et plus on va accepter ça, plus ça va continuer, puis plus cette dynamique-là va changer la face de Montréal. C'est une bataille constante. Hein. Et nous qui avons vécu ces époques-là, ces batailles-là, oui. On s'aperçoit que c'est une bataille qui ne termine jamais. La bataille pour la survivance du français est une bataille fondamentale, mais la majorité des Québécois sont pour. Ceux qui nous écoutent, là, ils aiment ça. Le deux tiers des gens disent qu'il faut aller plus loin, il faut changer, le français est en péril. Et là, les faits rattrapent parce que même les sondages de l'Office de la langue française, nos sondages, tout conjugue dans la même direction. Le Québec est prêt à reprendre l'offensive.
Mais ça c'est la très 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 bonne nouvelle qui ressort du sondage. Puis je veux juste revenir un petit peu Jean-Marc, parce que bon, on sait qui vous êtes, on sait le fils de qui vous êtes et l'importance que la famille Léger, le rôle que la famille Léger aussi a joué dans la politique et dans la pour la société québécoise. Vous parliez tout à l'heure des libéraux. Ben, et vous parliez tout à l'heure de la loi 22. Ben, la loi 101 c'était les péquistes, mais la loi 22 c'était les libéraux. Donc les libéraux de 2020 devraient peut-être se rappeler aussi de l'héritage du Parti libéral qui a été, à une certaine époque, des grands défenseurs du français au Québec.
Oui, c'est eux, dans le fond, la Révolution tranquille, le nationaliste au Québec, le Parti libéral a fait beaucoup. Au cours des dernières années, ils se sont isolés un peu, puis on l'a vu au résultat aux dernières élections, où ils ont obtenu un score misérable auprès des francophones. Dans mes derniers sondages, ils sont à moins de 10% chez les francophones actuellement.
Wow!
Dominique Anglade, c'est son grand défi, puis vous le voyez en termes de contenu, elle est en train de changer là, le visage nationaliste du Parti libéral. Là. Parce
ben, tout à fait.
Philippe Couillard et son équipe avaient rendu, je pense, c'était l'équipe la plus fédéraliste qu'on avait jamais vue. Puis ça a une conséquence électorale. Elle s'est isolée de la clientèle francophone. Et ça, c'est un débat qui est permanent, mais ça part des gens. Les gens pensent que c'est les politiciens qui décident. Non. Les politiciens, eux autres, évaluent le vent. Et quand le vent est fort, comme celui-là sur la langue française, vous allez voir la conséquence. La conséquence, tous les partis politiques vont embraser cette dynamique-là face aux Français. Et je comprends le Parti libéral fédéral également là-dedans, parce qu'ils sont en élection le printemps prochain, puis le débat sur la langue est important, notamment dans les institutions fédérales. Fait que vous allez voir que la conséquence de ce qu'on mesure, c'est que les politiciens vont bouger.
Très intéressant. C'est pour ça que c'est important, Jean-Marc, quand on regarde les résultats d'un sondage, de pas juste avoir le nez collé sur les chiffres, mais de prendre un pas de recul, d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre ce que ça signifie, ce qui se cache derrière, puis aussi l'impact que ça a à avoir. Et moi, je pense, en effet, que dans ce cas-ci, le sondage dont vous nous parlez ce matin, il va avoir un impact assez important. Puis vous mentionniez les libéraux à Ottawa, puis il y a cette députée de Saint-Laurent, là, Emmanuela Lambropoulos, qui a beaucoup fait parler d'elle en fin de semaine, parce qu'elle siégeait la semaine dernière sur un comité des langues officielles, et elle a elle-même remis en question la fragilité du français au Québec en disant faut que je le voie pour le croire. I have to see it to believe it. C'est quand même assez incroyable que quelqu'un
Elle l'a dit en anglais, hein? Elle l'a dit en anglais, cette expression. Mais elle s'est fait rabrouer, par exemple. Vous avez vu que ça a été très fort, même dans son parti, même au Parti libéral fédéral, elle s'est fait rabrouer. Parce que ce sont des décisions qu'ils doivent prendre, eux, rapidement, là, sur le fait français, avant la prochaine élection. Fait que c'est un débat qui s'en vient tout bord. Les gens qui nous écoutent, là, si on pensait que c'est un vieux débat, non, c'est un débat d'avenir. La CAQ arrive avec un projet de loi bientôt pour renforcer la loi 101 qui a été trouée. C'est comme le fromage suisse. La loi 101 actuellement, là, elle a été trouée depuis sa mise en place dans les années 70. Et vous avez au gouvernement fédéral où ça va être un enjeu électoral, la place du français parmi les fonctionnaires fédéraux. Fait que c'est le début d'un vrai débat.
Passionnant, vraiment, vraiment passionnant. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Jean-Marc Léger, donc président de la firme de sondage Léger, vous allez retrouver tous les résultats de ce sondage vraiment très éclairant dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi, bien évidemment, sur toutes nos déclinaisons Internet. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Au plaisir, Sophie. Au revoir.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
On se le cachera pas, depuis le début de la pandémie, depuis le début de la COVID-19, c'est vraiment le milieu culturel qui est un des milieux, si ce n'est le milieu qui a été vraiment le plus durement touché, en particulier les arts vivants, donc ça inclut le théâtre, la musique, y a une lettre ouverte, vraiment comme un cri du cœur, un cri d'alarme qui a été publié en fin de semaine, des gens d'affaires qui s'inquiètent de l'impact sur le milieu culturel. Et parmi les signataires, il y a Mitsou. Ben oui, notre seule et unique Mitsou Gélina, elle est au bout de la ligne. Bonjour Mitsou!
Allô! Tellement que j'ai juste un prénom!
Ben écoute, t'es tellement notre Mitsou! Oui, c'est ça! Tu fais partie de ces rares personnes au Québec. Tu sais, il y a Clémence, il y a Céline, il y a Mitsou. Tu sais, des gens, t'as même pas besoin de connaître leur nom de famille. Mais pourtant, ton nom de famille est important parce que Mitsou Gélina, t'es la petite fille de Gracien Gélina. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ce qui se passe dans le milieu culturel te touche de très près.
C'est vrai, t'as raison, Sophie. Ça fait partie de mon ADN, de l'ADN de tous les gens de ma famille qui ont été dans le milieu, veux pas, d'une manière ou d'une autre, beaucoup dans le théâtre. Mes oncles, j'ai des cousines qui sont encore dans le milieu. Donc, pour nous, ça fait partie de nos vies, mais c'est sûr que le fait que j'ai été aussi, je suis devenue porte-parole il y a plusieurs années du prix Gracien Gélina, du CEAD. Le CEAD, c'est le Centre des auteurs dramatiques. Et puis, le prix Gracien Gélina, c'est vraiment le prix le plus important qui est décerné aux auteurs, aux autrices dramatiques francophones de la relève. Fabien, entre autres, a été, Fabien Cloutier a été nous lauréat il y a quelques années, tout ça. Et c'est avec la gang du Centre des auteurs dramatiques que cette lettre-là a été écrite, parce que pour nous, c'est important. Le théâtre, bon, c'est sûr que les auteurs dramatiques sont les gens qui créent des années en amont le théâtre, puis ce que va devenir le théâtre, la télévision et un petit peu tout au Québec. Donc, et ces gens-là ont besoin, veut pas, d'un tout petit peu de prévisibilité. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, j'aimerais, Sophie, j'en profite, là, tu me fais penser à ça, mais Cube, c'est Québécois. Québécois est un des grands donateurs du prix Gracien Gélina aussi depuis des années, puis j'aimerais les prendre l'occasion de les remercier.
Tout à fait, c'est important de le souligner, ouais.
Mais Seigneur, oui, parce que c'est tellement difficile de se faire reconnaître. C'est un tout petit incubateur, le CEAD, mais qui est une référence partout à travers le monde, parce que vous savez que les Québécois ont fait les choses différemment et brillamment. Et puis donc, on a fait ce cri du cœur-là parce qu'on se disait, il faut faire quelque chose pour essayer d'attirer les gens d'affaires vers l'art. Et puis, c'est important de dire que même moi, quand j'ai décidé de signer la lettre, je me sentais mal parce que je me disais, moi, est-ce que j'en fais assez? Oui, je suis bénévole au CEAD, mais mon entreprise, oui, on achète des tables pour des balles, on aide des réalisateurs, mais tu sais, on a l'impression toujours qu'on en fait pas assez. Puis je sais pas si les autres gens d'affaires se sentent comme ça aussi, mais il y a moyen de faire des tout petits gestes, de dire, regarde, une table, c'est sûr que les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment, puis on le comprend bien, mais si jamais vous aviez à l'époque le plaisir de pouvoir vous procurer une table pour un événement, ben essayez de donner ces sous-là encore cette année, si c'est possible, à un organisme de votre choix en culture. Ça peut être la danse, si vous aimez la danse. Ça peut être le théâtre, si vous aimez le théâtre. Nous, c'est sûr qu'il y a le CEAD, mais il y en a tellement d'autres. Donc, c'est juste pour faire un petit rappel avant Noël. Si jamais c'est pas fait, ben vous pouvez faire un tout petit don. Puis parlant de petits dons, on a un encamp virtuel avec des aquarelles de Michel Tremblay.
Ah oui! Super!
Puis ça commence à, écoute, ça commence à 75 $ là, tu sais. Mais c'est vraiment une chance très spéciale sur le Facebook du CEAD, du Centre des auteurs dramatiques, de se procurer ça. Donc, il y a plein de petites manières, mais oubliez pas les gens de la culture.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis, puis une des idées qui est soulevée dans la lettre que je trouve extraordinaire, c'est que on le sait qu'on peut pas aller voir des spectacles parce que les théâtres et toutes les salles de spectacle sont fermées, et une des idées qui était mise dans la lettre, c'est de dire, ben prenez de l'argent que vous prendriez normalement pour acheter des billets de spectacle, puis prenez cet argent-là, puis donnez-le à une cause qui vous tient à cœur dans le milieu culturel. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que on le sait que normalement, on irait donner, on irait acheter des billets, donc puis que cet argent-là irait directement dans les poches des créateurs. Donc, c'est une bonne façon aussi de les aider. Quand tu regardes le milieu culturel Mitsou, tu nous parlais de tout à l'heure de ton entreprise. Pour ceux qui le savent pas, ton entreprise, c'est Dazmo. Vous faites de la musique de film, plein de projets musicaux. Comment ça se passe quand on a une entreprise culturelle en pleine pandémie?
On a réussi, Sophie, à survivre.
Oui, de peine et de misère.
Oui, vraiment. Vraiment, écoute, j'en suis tellement heureuse. Puis on doit tout ça aux producteurs qui ont continué à nous faire confiance malgré tout. Ce qu'on a fait, c'est que bon, il y a des productions, par exemple, avec des réalisateurs qui ont été mis sur le hold, mais en même temps, pendant ce temps-là, ça nous donnait le temps de développer la musique encore mieux. Donc, on a travaillé pendant 2 semaines avec Alexis Durambeau puis Sophie Lorrain, par exemple, pour développer encore plus leur message à travers la musique de leur nouvelle télésérie. Puis donc, on a recommencé comme ça lentement mais sûrement. Puis avec le temps, les productions sont revenues. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de négociations aussi avec les producteurs, avec l'UDA, tu sais, il fallait que tout le monde soit à l'aise à recommencer à travailler. Puis je peux te dire que c'est hyper sécuritaire un petit peu partout, au niveau des productions, des studios et tout ça, là, ça se passe bien. On touche du bois, évidemment, que ça continue de cette manière-là, mais je pense que tout le monde a vraiment pris, dans notre milieu, ça très au sérieux. Mais c'est sûr que le théâtre, c'est autre chose.
Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que dans la lettre, ce que vous mentionnez, qui est tout à fait vrai, c'est que ça a été les premiers à être confinés, tu sais, c'est les salles de spectacle. Et on voit, par exemple, tu sais, je veux dire, tu sais, on peut aller magasiner chez Costco, puis on peut aller, tu sais, il y a plein de commerces qui restent ouverts. On peut aller s'acheter des livres, donc le milieu de l'édition peut continuer. Mais on le sait que le milieu des arts vivants, ça va être les derniers à rouvrir leurs portes. Donc, moi, ça m'inquiète parce que je me dis, il y a plein de gens excessivement talentueux dans ce domaine-là, des danseurs, des chanteurs, des comédiens qui
des
vont peut-être...
Musiciens. C'est encore pire. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la musique classique, c'est pas évident. Les orchestres, tout ça, et les groupes de musique aussi. Donc, oui, c'est difficile. En même temps, c'est une opportunité, on l'a dit, le mot a été galvaudé, mais de se réinventer. Là, je te donne un exemple. Entre autres, il y a Gabrielle Chapdelaine, qui a été la lauréate du prix Gratien Gélinas de 2018. avec sa pièce Une journée, qui est une autrice aussi de télévision, entre autres, elle a travaillé sur Les Invisibles, c'est une jeune femme assez extraordinaire. Ben, sa pièce Une journée va être présentée en novembre, dans quelques jours, par le théâtre Cherry Art Space à New York. Donc, il y a encore moyen, oui, et ça va se faire virtuellement. OK? Donc, au niveau du virtuel, il y a beaucoup d'efforts par les théâtres qui sont vraiment là, mis pour pouvoir exister autrement. Puis, je pense que le mot, c'est ça, c'est exister. Mais encore une fois, pour faire ça, il faut des sous. Ben, c'est de la recherche, là, pour essayer de faire une pièce de théâtre virtuelle. Faut que tu changes complètement tes habitudes. Faut que tu engages des techniciens. Faut que tu sois à la fine pointe de ce qui se passe aussi en technologie. Fait que, tu sais, t'as besoin d'une équipe complètement différente. Alors, t'as besoin de fonds, tu sais.
Ouais. Tu parles du prix Gratien Gélinas. J'ai mentionné que c'était ton grand-père. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens plus jeunes qui ne savent pas c'était qui Gratien Gélinas. Même ça me fait de la peine de l'admettre, Mitsou. Mais peux-tu nous le présenter, ton grand-père, pour ceux qui, peut-être des gens qui nous écoutent, peut-être des nouveaux arrivants, des gens qui ne savent pas le monument qu'était Gratien Gélinas. C'est important?
C'est très important parce que avant Gratien, le théâtre québécois n'existait pas comme il est, comme on le connaît maintenant. À l'époque, on ne jouait que les pièces de théâtre françaises et on les jouait, les comédiens québécois les jouaient à la française.
Aussi. Avec un accent français.
Avec un accent français. Et puis, Gratien a été un des premiers, sinon le premier, c'est pour ça qu'on l'appelle le père du théâtre québécois, à écrire nos histoires dans nos langues, dans notre langue plutôt. Puis, quoi de plus important que quelqu'un qui développe ça pour un peuple? Puis, c'est pour ça que, oui, ben Gratien, c'est mon grand-papa, un beau monsieur avec une barbe blanche, des yeux bleus, une grande tendresse. Qui nous appelait ses petites filles mes belles crottettes d'amour. Mais oui, ma belle crottette d'amour. Puis là, il nous collait, là, puis il nous faisait une belle caresse dans le dos. Mais c'est beaucoup plus pour le Québec. C'est quelqu'un qui a été joué aussi beaucoup au Canada, que les Canadiens ont étudié. Alors ça, c'est une grande fierté. Et puis, qu'il y a eu aussi une belle envolée là, vers les États-Unis, entre autres, avec Tukoc. Et si je me trompe pas, hier, les enfants dansaient. Mais si ça vous intéresse, il y a les Fridolinades et son personnage Fridolin, qui est vraiment un de ses personnages les plus importants. Et ça a été aussi le premier à faire du théâtre, du cinéma québécois aussi. Attends, moi, te le dire, là. C'est le premier à faire du cinéma québécois, donc en français aussi, au Canada. Voilà.
Bon, ben alors, c'est les Fridolinades, c'est Tikok, c'est Bousiller les Justes, Hier les enfants dansaient, La passion de Narcisse Mondou. Donc, vraiment des œuvres excessivement importantes. Et c'est pour ça que ce prix-là est si important, parce que c'est de mettre en valeur des jeunes qui commencent, des futurs Gratien Gélinas. Et c'est justement ça, moi, qui m'inquiète. Puis j'aime beaucoup ton exemple que tu nous as donné tout à l'heure de Gabriel Chapdelaine. Mais, tu sais, de se dire aussi, quand on regarde l'impact de la COVID-19, c'est de dire qu'il y a des jeunes qui commencent dans le métier, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit autre chose, et qui peut-être, évidemment, parce que avec la situation qui est si difficile, se disent « Bon, ben moi, je vais changer de métier, je vais aller faire autre chose. » Et ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois que la COVID sera finie, hein, ça va finir à un moment donné, que ces jeunes-là ne désespèrent pas et qu'ils reviennent au milieu culturel. Mais il y a quand même une crainte qu'on les perde.
Il faut continuer à écrire. Puis oui. Je te dirais que pour les auteurs, en général, c'est intrinsèque, c'est vraiment quelque chose de viscéral, ce besoin d'écrire-là. Puis il faut le nourrir, même s'il faut faire autre chose pour se nourrir, en attendant.
Ah, c'est bien dit, ça.
C'est pour ça que les gens d'affaires peuvent donner un tout petit coup de main à la mesure de ce qu'ils peuvent.
Ouais. Mitsou, sur un plan plus personnel, toi, tu le vis comment depuis le vendredi 13, le fameux vendredi 13 mars, les hauts et les bas que tu as pu vivre par rapport à la COVID-19, ça se transmet comment? Ça se vit concrètement comment?
Tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que, comme toi, j'ai continué à faire de la radio, au quotidien. Oui. Un petit bout dans mon sous-sol. Le plus difficile, ça a été de trouver la bonne ergonomie pour travailler à la maison, mais autant pour moi, pour les filles aussi. Je dirais que pour moi, c'est bien parce que je suis quelqu'un quand même de casanière. Mm-hmm. Mais pour mon adolescente de 17 ans, c'est extrêmement difficile.
Oui, hein?
Ouais.
Pour les ados, c'est dur.
C'est ça. Ouais, c'est dur. Puis des fois, il faut mettre les choses en perspective parce que on a l'impression qu'ils sont rough, qu'ils sont tough. Et des fois, ben c'est tout ça. Ça n'excuse pas le fait qu'ils font pas leur lavage, puis ils font pas leur ménage comme on voudrait. Mais quand même, faut aussi arriver à mettre de l'eau dans notre vin.
Mais ce que tu dis par rapport aux ados est tellement important. C'est tellement une période qui est difficile pour eux parce que c'est l'âge où ils ont tellement soif de contact humain. C'est l'âge où les amis, c'est ce qu'il y a de plus important au monde.
Oui.
C'est avant les parents, avant l'école, avant même leur passion, avant les jeux vidéo, là, c'est les amis. Et d'être privé de ça, moi je trouve que c'est d'une tristesse inouïe. Puis il faut être à l'écoute de cette détresse-là aussi chez nos ados. C'est super important d'en parler.
Ouais, puis c'est une des seules choses qu'on peut pas dire, où les parents peuvent pas dire « Je sais ce que c'est, je te jure, ça va passer, je l'ai vécu. »
Non, c'est ça.
On l'a pas vécu. Le reste, les peines d'amour, les changements de direction dans la vie, tout le reste, de près ou de loin, on l'a vécu, mais celle-là, non. T'sais.
C'est vraiment pas évident. Puis c'est pas évident non plus dans le milieu culturel. Écoute, c'est une lettre extrêmement importante. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Mitsou, évidemment, animatrice. Mitsou, d'ailleurs, t'es tellement belle à la une du magazine Clin d'œil. Il fallait que je te le dise.
Merci.
Écoute, t'as jamais été aussi belle, Mitsou.
Mais
écoute...
Je comprends même pas moi-même, merci.
Non, mais cette photo-là, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, t'as jamais été aussi belle, Mitsou, puis tu viens d'avoir 50 ans.
Ben oui, je le sais. Je m'en allais là, j'avais aucune... on sait jamais, c'était une équipe qui était mise en place par l'équipe du Clin d'œil. Des gens avec qui j'avais travaillé super longtemps, d'autres avec qui j'avais jamais travaillé. Et puis, c'est sûr, une photographe extraordinaire, là, l'équipe de l'EDA.
Non. Oui, mais c'est pas la photo qui...
Non, j'étais comme... Il n'y a pas de retouche! Je te jure, il n'y a pas de retouche. On regardait ça, puis... Et là, je me suis dit, mais quelle chance d'avoir de travailler avec des gens comme ça, puis de pouvoir encore avoir accès à ça. Puis oui, tu le dis, à mon âge de 50 ans, mais c'est le fun de se sentir bien puis belle une fois de temps en temps, justement dans ces heures-ci, là, où on est un petit peu plus confiné qu'on le voudrait.
Ouais, mais écoute, pas de retouche, 50 ans, la cinquantaine vraiment resplendissante, puis je te dirais que, tu sais, on sait comment ça s'est passé, t'as été connue très, 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 très jeune, ça a pas été toujours facile, et, tu sais, il y a eu une certaine époque, les gens se disaient, tu sais, il y avait beaucoup de préjugés à ton égard à cause de ta beauté, mais je pense que avec le temps, non seulement t'as jamais été aussi belle, mais t'as jamais été aussi reconnue pour toutes sortes d'autres choses que ta beauté. C'est pour ça que j'étais un petit peu mal à l'aise au début. Je me disais, est-ce que je lui parle de la une de Clin d'œil? Mais je trouve que s'il y a une telle adéquation entre ce que tu dégages et ton apparence que j'ai l'impression que t'es sur ton X en ce moment.
Merci. Oui, je le ressens comme ça. C'est drôle parce que mon chum a dit dernièrement le week-end, tu sais, le beau week-end dernier là, qu'on a eu.
Oui.
Il y a deux week-ends, on était sur devant la maison avec un verre de vin, puis mon chum a dit, je t'ai jamais vue aussi heureuse professionnellement. C'est vrai que ça a pris du temps, mais ce que je fais en ce moment, là, c'est ce que j'aime le plus au monde. Ouais, mon site web, la radio, la création. Je vais me remettre un petit peu à la production lentement, mais sûrement écrire des concepts pour la télé, mais mais je prends mon temps parce que justement, je chéris ce que j'ai en ce moment.
Oui, c'est ça. On n'a même pas eu le temps de parler de ton site web, donc j'encourage tout le monde à aller sur ton site, plein de réflexions intéressantes. Donc, écoute, vraiment une femme d'affaires accomplie qui garde quand même le cœur à la bonne place et qui se préoccupe des auteurs dramatiques en fière petite fille de Gracien Gélinas. Merci beaucoup, Mitsou, d'être venue nous parler aujourd'hui.
Yay! Merci, Sophie Téphine. Salut tout le monde. Bonne journée.
Merci, Mitsou Gélinas. Donc, mieux connu avec simplement son prénom. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je remercie Sébastien. À la... la Perrière. C'est parce que faut que je vous le dise. J'ai vraiment un problème avec les noms de famille. Et il y a des gens qui sont dyslexiques. Moi, je pense qu'il faut inventer un nom pour décrire les gens qui ont un problème avec les noms de famille. Je pense que je suis nom de famille lexique. C'est terrible. Alors, Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Hugo Veilleux à la recherche. Ben, moi, mon nom de famille, c'est Sophie Durocher, puis j'ai très hâte de vous retrouver demain.
Cube Radio.